à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Martin Kénéen rencontre Bernard Kouchner. Ce soir, la colère.
Bernard Kouchner, au gré de nos conversations, cette semaine, nous avons parlé de l'aventure et de ses dangers, de l'étrangeté, de la solitude, du combat. Et j'aimerais qu'on termine en colère. Votre ami Marek Alter a intitulé l'un de ses livres « Je me suis réveillé en colère ». Est-ce que c'est votre cas, Bernard Kouchner ?
Non, je me suis réveillé assez... J'avais rendez-vous avec vous, ça m'a mis en joie. Non, mais je suis en colère, mais pas en permanence, hein, je vous assure. Je suis en colère contre le fait que nous ne soyons pas assez en colère. Il y a une espèce de passivité, je vous l'ai dit, et jamais dans notre génération, maintenant un peu ancienne, je vous prie de protester.
Et comment ?
Bon.
Allons bon.
Oui, voilà. Maintenant un peu ancienne, nous nous révoltions contre les exactions, contre les massacres de masse, contre les crimes. Eh bien, au Moyen-Orient, nous ne sommes pas révoltés, pas assez. Ces massacres ont eu lieu. Comme si c'était maintenant... bien naturel que ces gens-là s'assassinent, mais que nous restions peinards.
Est-ce qu'on est si peinards que ça? Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà du fait que nos contemporains, nos concitoyens, sont en partie anesthésiés et, dans une autre mesure, terrorisés?
C'est vrai, bien sûr. Bien sûr.
Et ce qui expliquerait légitimement... l'absence de colère que vous semblez considérer comme nécessaire pour rester vigilant.
Oui, il y a beaucoup de choses. Il était nécessaire de... s'indigner, puis de se battre contre le terrorisme. Est-ce la bonne manière de refuser les autres, et en particulier ceux qui le fuient, ce terrorisme? Par exemple, les Syriens, qui fuient ce terrorisme, qui a démoli complètement leur pays, qui ne se reconstruira pas avant des années et des années, et avec quel argent d'ailleurs? Non, c'était nécessaire de montrer à la fois que nous étions solidaires de ces gens dont on avait détruit la famille, qui pâtissaient de ce terrorisme, je repense... Et c'est pas seulement les Syriens. On peut penser aux Irakiens, on peut penser aux Kurdes, etc. Et nous n'avons pas fait ce geste élémentaire de solidarité. Bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme, et j'encourage, et d'ailleurs ça n'a pas été si mal fait que ça en France. Malheureusement, on n'a pas pu tout éviter. Il y a eu beaucoup d'attentats en France. Il y en avait eu avant, avec les groupes algériens. Mais je crois qu'il faut accompagner cette lutte nécessaire, intransigeante, bien représentée d'ailleurs par Manuel Valls, par exemple, et François Hollande, quand il l'a dit, et en ce moment, par Emmanuel Macron. Mais il fallait l'accompagner d'une générosité. Je vous l'ai dit, je me répète, pardon, je suis assez solitaire, dans mon avis. Il n'y a pas d'humanitaire sans politique. Il n'y a pas de politique sans être le cœur sur la main, sans vouloir reconstruire l'image de quelque chose de meilleur. Si c'est pas mêlé, alors vous participez. Bien sûr qu'on a envoyé des pansements au Kurdistan, mais on les a pas laissés être indépendants. On les a pas laissés. Il y avait 92,7% des gens au Kurdistan d'Irak qui ont voté sans aucune contestation sur le mode de scrutin pour l'indépendance. Il n'y a pas eu de mouvement international de ces grandes nations. Alors qu'ils auraient eu au cœur de la bête immonde, c'est-à-dire de ce qui se passe en ce moment entre l'Irak, entre la Syrie, la Turquie, etc., un endroit démocratique, un endroit où on votait, un endroit où les femmes avaient leur place autant que les hommes. Eh bien, on ne l'a pas fait. Je vous cite cet exemple parce que c'est ma dernière indignation. Mais en même temps, il y a eu des trahisons entre Kurdes, etc., comme d'habitude, bien sûr. Mais enfin, nous n'avons pas pu tendre la main. Nous n'avons pas expliqué aux Français que c'était là qu'il fallait aider.
Il faut le cœur sur la main, il faut aider, il faut avoir aussi le cœur frémissant de colère, j'y insiste. Quand vous déclarez au Parisien, le journal Le Parisien aujourd'hui en France, alors que vous êtes ministre d'ouverture sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on vous dit vous êtes un ministre en colère ou heureux? Et vous répondez, je suis très heureux, ça ne m'empêche pas d'être en colère, le jour où je ne le serai plus, je serai mort. En quoi c'est un enjeu de vie ou de mort d'être en colère, de le rester?
Oui, enfin c'était une formule que je partage encore en ce moment avec moi-même, d'accord, mais enfin bon, ça ne veut pas dire que je vais mourir tout de suite, si je pense, non. Puis il y a plein de motifs d'être en colère. Et celui dont je viens de me servir pour vous expliquer la contiguïté entre l'humanitaire et le politique, c'est toujours le même en ce moment. Qui défend ? On s'est appuyé sur les Kurdes pour prendre Mossoul, par exemple. Ça, c'était les Kurdes irakiens. Et puis après, on a démoli, ils voulaient l'indépendance, on ne l'a pas soutenu. En ce moment, ce sont les Kurdes syriens qui nous ont permis... J'étais pendant la bataille de Raqqa, il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines. Là, ce sont les Kurdes et les Arabes, car Raqqa était une ville arabe, qui ont permis la victoire de la coalition internationale. Et ben, en ce moment, les Turcs attaquent et massacrent ces mêmes Kurdes de Syrie. Qu'est-ce qu'on fait ? On va les trahir une fois de plus.
Mais votre colère personnelle ? Je pense à votre ami André Glucksmann,
oui,
qui, à sa façon, était au combat, comme vous, en qualité de philosophe pour Glucksmann, et qui a pu écrire cette autobiographie intitulée « Une rage d'enfant ».
Il
a cette colère qui vient, lui, d'avoir échappé de tellement peu à la déportation,
oui,
grâce à la colère et à la chutzpé, l'audace de sa mère. Vous avez, vous partagez avec André Glucksmann une rage, une colère d'enfant ?
Mais pas la rage d'enfant, je ne l'ai pas partagée, mais la rage d'André Glucksmann, je l'ai partagée pendant des années et des années. C'était mon copain, mon compagnon, je n'étais pas le seul qui partageait avec André cette nécessaire mouvement de colère. Non, par exemple, c'est lui le premier qui a été à Poulo Bidong avec sa femme Françoise. Et c'est lui qui nous a alertés le plus possible quand on a fait le comité bateau pour le Vietnam. Pardon d'insister, mais à force, vous allez peut-être comprendre. C'était gauche-droite et personne n'a protesté. On est allé avec nos bateaux, 7 bateaux, à 12 000 kilomètres, sauver les mecs. Et Poulo Bidong, c'est André qui nous a alertés. Et il est venu, et ça a été une expédition merveilleuse. Enfin, on dit l'île de lumière, il va y avoir un film, bon...
Sur ce bateau qui a permis de sauver ceux qu'on appelait les
Boat
People.
Je vous l'ai dit, il y en a eu 7.
À la fin des années 70.
Et c'est avec André que l'avons fait. Il a été indigné. C'est vrai que lui, il était né avant moi et qu'il a eu sa mère ayant cette présence d'esprit, cette volonté. Il a échappé à la mort et sa famille aussi. Bon, oui, c'est vrai que la déportation des Juifs et leur massacre. C'est une colère qui ne m'échappera plus jamais. Mes grands-parents sont morts à Auschwitz. Mais je vous ai dit que dans ma famille, on en parlait très peu et que j'ai reçu une éducation entièrement laïque. Je suis jamais allé ni à la synagogue, ni au temple. Ma mère était protestante, ni à l'église. Mais j'ai travaillé avec des gens d'église, avec des protestants et avec des juifs, pas assez d'ailleurs, dans le mouvement humanitaire. Médecins sans frontières a été fait. Certes, je n'ai pas été étranger, et j'étais le seul politique d'une certaine façon. Mais les médecins qui étaient au début dans le Biafra, c'était des médecins catholiques pour qui c'était normal d'aller aider les autres. Et j'approuve ça, bien sûr.
Mais vous évoquez l'éducation laïque que vous avez reçue, Bernard Kouchner. Vous avez pu parler de l'athéisme radical que vous partagiez avec
Absolument,
votre père.
Oui.
Est-ce que cet athéisme radical, ça peut être aussi une colère contre Dieu et son absence ?
J'allais vous le dire, parlons pas des absents. Écoutez, je laisse à ceux qui croient en Dieu la colère contre Dieu. Moi, j'y crois pas une seconde. Alors, je sais, Roger Martin Dugard, on va au dernier moment, quand je mourrai, peut-être que je me dis, ah, c'est par hasard qu'il existe. Non, pour le moment, je m'en garde. Mais j'ai aucune raison d'être en colère contre Dieu. Mais il y aurait plein de raisons si on y croyait. Je disais ça avec l'abbé Pierre. Vous savez, j'ai eu une espèce de connivence longue et amicale, et d'une certaine façon plus forte encore que ça, avec l'abbé Pierre, comme avec sœur Emmanuelle. Et même, nous avons faim de nous marier, sœur Emmanuelle et moi-même. J'aimais ces gens, et ils croyaient en Dieu, c'est très bien, très bien pour eux. Mais j'aimais leur mouvement, j'aimais leur efficacité, j'aimais formidablement leur novation. Ils avaient fait ces mouvements-là à partir de rien. Emmaüs, c'est formidable. Les chiffonniers ça aussi. Je suis allé à Sarajevo avec l'abbé Pierre. Vous savez, je le voyais tout le temps. Donc on a eu le temps de discuter de tout ça. Mais eux, ils croyaient que j'étais un croyant malgré eux. Non, mais c'est pas vrai. C'est trop facile, vous voyez. Mais enfin, ça me gêne pas du tout que les gens croient à Dieu. Simplement, il y a un peu de rationalité chez moi. Et plus on va dans la découverte des neutrinos, spécialité chère à mon fils Antoine, et dans une découverte de la matière noire, par exemple, moins ça va venir facile quand même. Hein, parce que je le vois pas bien sur son nuage, lui.
Moi, je...
C'est comme vous voulez. Hein.
Je m'acharne à vous faire parler de colère, à essayer de vous faire bouillir, Bernard Kouchner, et vous me parlez de matière noire et de neutrinos, mais précisément...
Mais c'est parce que justement, ça fait pas bouillir. Comment voulez-vous, quand vous avez vécu ce que j'ose dire, faut pas être prétentieux, tout ce que j'ai vu de malheur, comment voulez-vous croire en Dieu? Alors l'abbé disait, mais il faut croire malgré ça. Oui, évidemment, malgré l'évidence, on peut quand même être rationnel, mais moi... Ça me contrarie, quoi, qu'il laisse tout ça faire.
Vous avez été tenté de croire, non pas en Dieu, donc, Bernard Kouchner, mais peut-être...
Excusez-moi.
...en la Révolution, et en tout cas, en l'action du Che et de Fidel. Vous êtes allé en 64.
Bon, attendez, alors, j'étais pas le même. Oui, j'admirais l'aventure de Fidel Castro et de Che Guevara, c'est vrai. Ça voulait pas dire que je pense qu'ils ont raison, au contraire.
C'est pour parler de colère, parce que vous dites que vous avez eu envie de lui casser la gueule à Fidel.
Oh, faut pas exagérer, ça c'est du connerie.
Je vous cite verbatim. Envie de casser la figure.
Ah, c'est déjà mieux. Non, je trouvais que il y avait, enfin écoutez, c'est une histoire romantique. Bon. Laissons tomber cette affaire amoureuse.
C'est pour une histoire d'amour. Si on parle d'amour, justement, avec Léo Ferré toujours, que vous aimez à interpréter à l'occasion, Léo Ferré qui chante Aragon, dans la chanson « Il n'aurait fallu mm-hmm. », il chante « Moi qui frémissais toujours, je ne sais de quelle colère ».«
Moi qui frémissais toujours, je ne sais ». Bah oui, c'est beau,
la suite
ça.
Qui m'intéresse.
Alors moi, j'aime les gens qui chantent. Dans ma famille, on chantait tout le temps. Dans ma famille, il y avait des gens qui chantaient faux. D'ailleurs, moi, j'étais pas terrible. Enfin bon, j'ai appris depuis un peu. Et voilà, on chantait. Et je trouve que... Par exemple, on avait des vieilles voitures et on allait dans le Poitou. Mais pendant la guerre, mes parents avaient trouvé des gens admirables qui s'appelaient les Couillots et qui ont protégé une partie de ma famille. Et puis, on a continué à aller les voir, et j'y vais encore, et on avait une vieille maison. Formidable de penser qu'on habitait là-dedans. Et en allant là-bas, dans la vieille 402, je crois, de mon père, on chantait. Mais mon père, il y a une façon... Souvent, il pleuvait, quand on allait l'hiver, et les vitres s'ouvraient dans cette voiture devant. Et alors... Les essuie-glaces ne marchant pas, il avait un gargare et des lunettes. Ça n'empêchait pas de chanter, mais c'était difficile de conduire. Bon, bref, nous chantions à la maison. Et mon père et ma mère organisaient des réunions d'intellectuels. Pour moi, je me mettais sous la table. Mon père était médecin et donc il avait une pièce où on attendait. Et ces gens-là chantaient. Et je trouve que chanter, ça adoucit les mœurs, le moins qu'on puisse dire. Eh bien... Je travaille avec des Espagnols qui établissent des investissements pour que l'Afrique se développe. Et c'est formidable parce que tout le monde pense à l'Afrique, sauf les Français. Il y a Bolloré, heureusement, mais c'est tout. Il n'y a pas d'investissement français. Et eux, les Portugais et les Espagnols avec qui je travaille, ont cette... Et à quelques jours, ils ont fait avec les Africains qui étaient venus à Madrid pour une réunion, il y a eu un spectacle flamenco. Flamenco, c'est ce que je comprends le mieux dans toute la chanson du monde, parce que c'est la rencontre des tziganes, d'une certaine façon de l'Afrique, en particulier de l'Afrique du Nord et du monde arabe, et tout ça en espagnol. Ça s'est passé en Espagne, et c'est une merveilleuse chanson qui évoque toutes ces rencontres culturelles. Et les Africains qui étaient là se sont mis à chanter en même temps. Eh bien, mon vieux, ça c'est de la politique. Parce que si on fait des choses comme ça ensemble, comme l'humanitaire d'ailleurs, moi j'ai appris l'humanitaire avec un type qui s'appelait, le médecin s'appelait le docteur Okoye, qui au Biafra, alors qu'il était pédiatre, faisait de la chirurgie avec nous, et j'ai appris cet humanisme-là avec les Africains. Eh ben, j'ai pensé à ça en voyant chanter les Sénégalais, puis les Ivoiriens, puis tous ensemble, après le fado que les Portugais... Ben, entre le fado et le flamenco, vous avez compris beaucoup le monde.
Il y a aussi, pour comprendre le monde et peut-être pour le faire bouger, pour le faire changer, les chants révolutionnaires. Vous y insistez, vous avez pu y insister, Bernard Kouchner, ils ont un rôle que parfois on minore, parfois on oublie. Il y a certains chants révolutionnaires oui, en particulier oui. qui vous ont mis en mouvement ?
Bien sûr. Mais enfin, si vous voyez les paroles... Enfin, l'international, je ne vais pas vous la chanter maintenant. Ça fait longtemps que je ne la chante plus, encore d'ailleurs. Ça. Mais la Jeune Garde, c'est une merveille. Mais enfin, bon, il y a des paroles un peu dures, quoi. Et nous bâtirons sur vos ruines le communisme, genre... Bon, non mais ça va, nous avons chanté. Par la faucille et le marteau, et nous bâtirons sur vos ruines le communisme, monde nouveau, prenez garde. Oui, voilà, c'est dur, non ?
Mais c'est une sorte de...
Mais moi, j'aime bien chanter. Qu'est-ce que vous
voulez ? Il paraît qu'on chantait sur l'île de Lumière quand vous étiez en mer de Chine. Il paraît qu'on chantait au Quai d'Orsay quand vous étiez ministre des Affaires oui. étrangères et européennes.
Ça m'a pas...
Et que c'était pas souvent qu'on chantait sous les ordres de...
Oui.
De ce Quai d'Orsay.
Au Quai d'Orsay, on chantait parce que j'invitais aussi des gens qui n'étaient pas du Quai d'Orsay. Mais le Quai d'Orsay, c'est pas très bien vu. Enfin, je sais pas, d'ailleurs, j'en sais rien, c'est pas grave. Moi, j'ai quitté le Quai d'Orsay parce que j'ai pas fait de scandale. Hein. J'ai même écrit à Nicolas Sarkozy qu'après son discours de Grenoble, je pense que l'ouverture était terminée et que je m'en irais sans bruit.
Sur les Roms ?
Oui, en particulier sur les Roms, mais sur le fait que... Et d'ailleurs, il pensait pas ça. Moi, j'aime bien la façon dont il a... Il avait une politique beaucoup plus ouverte qu'on croyait. D'abord, l'ouverture d'abord, hein, il l'a faite, par la gauche. Sauf Rocard, qui, encore une fois, dans son gouvernement, avait gauche-droite moitié-moitié avec François Mitterrand. Donc c'était en gestation, c'était en devenir, cette idée de ne pas s'attacher seulement aux étiquettes. Mais je ne détruisais pas, c'est parce que je pensais une pensée qui était plus à droite qu'une autre qui était plus à gauche, pas du tout. C'est nécessaire en démocratie.
Oui, si on parle de colère, vous avez pu dire à cette époque-là, parfois j'enrage.
Oui, ça n'a pas été facile. À la fin, bon, c'était plus possible. Mais il y a eu de très, très, très bons moments. Ce qu'on a fait pour l'Afrique et pour la Guinée, avec Nicolas Sarkozy, d'aller au tribunal pénal international et de faire condamner les gens avec des procédés qui étaient acceptés, qui étaient ceux de l'ONU, ça a permis... Pas tout de suite, mais ça a permis l'élection d'Alpha Condé en Guinée après 55 ans de dictature. On a fait des trucs. Bon, c'est comme ça, pas pleurer. Mais les chansons révolutionnaires, oui. Enfin, c'est un peu le folklore de les... Enfin, c'est un peu le folklore de les chanter maintenant.
Et je vous ai fait chanter tout à l'heure. Enfin, vous avez commencé à chanter sans que je vous pousse.
C'est beau,
non, Léo Ferré, il n'aurait fallu... je ne sais quelle colère, deux bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air.
Elsa et Aragon.
Il n'y a que l'amour qui arrête, atténue, met en suspens un instant votre colère, Bernard Kouchner, comme
oui,
dans cette chanson.
Oui, mon frère. Non, mais bon, ça
peut être l'amour.
C'est très catho de dire ça.
Trop,
mais
trop
pourquoi
humain.
Pas, bien sûr. Bien sûr. Quand on n'a que l'amour. Bon. Écoutez, ça suffit, hein. Sinon ça se transforme, et alors on fait un récital à France Culture. Faudrait chanter plus en ce moment en France. Ça donnerait du liant à cette politique nouvelle.
Il y a l'amour, et puis, je n'en démords pas, Bernard Kouchner, il y a la colère, parce que il y a la colère qui est vitale, qui est nécessaire, celle dont on parle avec vous depuis tout à l'heure, celle qui vous meut. Et puis, j'ai pensé aussi à la colère... qui est celle de ceux qui choisissent l'opposé politiquement de ce que vous avez toujours défendu, en particulier l'extrême droite, le Front National. Comment est-ce que vous percevez, vous entendez, ou vous vous insurgez, vous combattez cette colère des Françaises et des Français qui se laissent tenter par un combat qui est l'opposé du vôtre ?
Hélas, oui. Nous avons à nous révolter pour ça, contre ça, et pour les raisons que j'ai dites, parce qu'il faut plus de liens. Je crois que c'est une très, très, très grande erreur qui nous rappelle les erreurs d'avant-guerre, même si les deux périodes ne sont pas comparables entre l'avant-deuxième guerre mondiale. Mais le réflexe nationaliste en ce moment, alors que nous avons eu la chance, hélas, pas assez exploitée, d'être la génération de l'Union européenne, que se réveillent les mouvements nationalistes. Vous savez ce que disait François Mitterrand, qui n'a pas toujours eu tort quand même. Dans son dernier discours à Strasbourg, il disait, il nous l'avait dit, un peu de nationalisme, c'est bon, pour la fierté, pour l'orgueil, pour la culture. Trop de nationalisme, c'est la guerre. Et je vois maintenant s'éveiller, pas seulement dans l'Union européenne, bien sûr, il y a aussi M. Poutine. De l'autre côté, il y a M. Trump. Il y a un monde dangereux, dont le fracas, pour le moment, les fracas séparés ne sont pas trop dangereux, mais s'ils se rapprochent, ils le seront. Les vociférations entre la Corée du Nord et M. Trump ne sont pas gratuites. La Corée du Nord, je n'en approuve ni le nationalisme, ni l'idéologie, ni les massacres intérieurs. Au contraire. Mais je suis sûr que le nationalisme est une plaie. Le combat national n'en est pas une. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous avons repris un tour, un mouvement, une démarche qui peut être dangereuse. Donc, pour ne pas dire que des choses négatives, seul Emmanuel Macron, qui, pour la première fois depuis longtemps, a fait une campagne très européenne, qui a été élu, avait besoin de l'Allemagne pour faire avancer ses idées européennes et cette nécessité européenne. Madame Merkel va revenir, je l'espère, je crois, à peu près certain, et ce sera l'occasion. Il ne faut pas la louper, il ne faut pas la manquer. Si nous manquons cette occasion, je pense que les choses ayant changé, l'Angleterre s'étant écartée, si on la faisait revoter maintenant, elle voterait négativement, elle ne quitterait pas l'Europe. Mais c'est fait. Ce qui s'est passé en Catalogne, et qui n'est pas très heureux, prouve que la bête est dans le fruit. Le ver est dans le fruit. Et donc il faut s'arrimer à cette Europe, à cette Union européenne, faire en sorte qu'elle soit plus populaire, plus douce aux gens, peut-être plus sociale, sans aucun doute, mais aussi qu'elle ne soit pas caricaturée. Et que, oui, certains, dans tous les pays, perdront du pouvoir. Et les 50 000 ou 36 000 présidents ou élus français, ils n'auront peut-être plus la même surface de pouvoir si on fait vraiment ce qu'on a appelé une fédération européenne, j'en sais rien, on peut l'appeler différemment. Mais il faut de l'Europe, sinon nous sommes mal partis. C'est sur ce terreau que se développent les idées nationalistes, qui sont plus ou moins toutes racistes. Je comprends que ça se développe maintenant, comme ça s'est développé avant-guerre, pour d'autres raisons. Mais avoir joué sur les migrations, avoir joué sur ces migrants qui nous tendaient la main, à qui nous n'avons pas tendu une bouée, et qui se noyaient par dizaines de milliers en Méditerranée, notre mer, c'était un bien mauvais service à rendre que de dire qu'ils nous étaient nocifs et qu'ils nous menaçaient. Ils ne nous menaçaient pas. Je connais des villages italiens, je connais des villages allemands, je connais des villages espagnols, où au contraire, les villages ont repris vie avec les migrants. C'est le contraire du nationalisme. C'est construire ensemble quelque chose qui sera plus grand, qui sera l'Europe, qui sera la démocratie, qui sera quelque chose de formidablement efficace et doux et pacifique, sinon on se défendra. C'est pour répondre à votre question. Il faut être pacifique jusqu'au point de se défendre contre ceux qui ne le sont pas. Voilà ce que j'attendais de ce mouvement qu'on a loupé, de ce mouvement de solidarité qui nous aurait été merveilleusement utile. Oui, je suis contre l'idéologie du Front National et prêt à l'affirmer partout. Pas au point de condamner, même si dans certains points, certains endroits, ce serait peut-être nécessaire, mais de donner des imprimatures qui seraient des interdits aux partis politiques. Non, il y a des gens qui pensent à droite, c'est bien, qui pensent à l'extrême droite, c'est moins bien. Mais bon, après tout, c'est un mouvement qui a eu ses lettres, pas de noblesse. Voilà, je pense que Emmanuel Macron, dans sa candidature, il était contenu, en tout cas dans le rejet que les Français ont manifesté contre les extrémistes de droite, contre les mouvements politiques droite et gauche. Il y a là cette occasion, tout en reconstruisant une gauche et une droite qui soient plus rationnelles, qui soient moins opposées. Qu'est-ce que c'est que ces chiens de faïence en permanence? C'est le goût du pouvoir, surtout. Oui, je pense que la gauche et la droite sont nécessaires, mais qu'il est nécessaire aussi qu'elles s'allient pour le bien de son pays, pas pour le bien de son parti.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce rendez-vous loupé, il reprenne vie?
Je crois que c'est en train de se faire. Et je crois que si Mme Merkel, qui voudra marquer l'Europe, c'est son dernier mandat, s'il y a un gouvernement allemand dirigé encore par Angela Merkel, qui est une formidable femme, qui est caricaturée en général, elle voudra marquer l'Europe avant de partir par quelque chose qui rendra l'Europe plus accessible aux Européens. Je pense que dans les propositions d'Emmanuel Macron, il y a déjà tout ça. J'espère que d'autres, sans doute l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Europe du Sud, nous avons soutenu à bout de bras la Grèce. On n'a pas voulu qu'elle parte et nous avons laissé partir l'Angleterre par notre bêtise politique, pas parce qu'elle avait des dettes. Donc il faut arrêter. Il faut refaire une fraternité, redonner un désir, un rêve accessible, pas simplement des caricatures administratives. Mais je vous assure, j'ai été député européen, c'est très très passionnant. Très passionnant. Vous n'êtes pas d'accord forcément avec les gens que vous voulez atteler à votre projet. Et la gauche, la droite se fait sur un choix. On ne sait pas avec qui on votera. Ce sont les projets qui comptent. Le bien ou le mal fait à l'Europe et à son propre pays. Ça, je crois que c'est une politique intéressante.
Merci. Bernard Kouchner.
Fin de cette rencontre de Martin Kénéen avec Bernard Kouchner. À voix nue. Réalisation Doria Zénine. Prise de son Fabien Gosset. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.